Les rois Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition spéciale du mardi 18 avril 2023, consacrée en grande partie à la situation au Soudan. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia. Quelques titres pour commencer, près de 200 morts en 3 jours au Soudan, où les combats se sont intensifiés. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, parle séparément aux généraux rivaux au Soudan et réclame au cessez-le-feu. En Tunisie, arrestation de Rached Ghannouchi, chef du mouvement islamo-conservateur ENADA. Le G7 dit s'opposer aux activités de militarisation de Pékin en mer de Chine méridionale après une réunion de 2 jours au Japon. Ne manquez pas notre passeport avec Yacoub Aouid Raougo. Pour l'instant, le journal. Un convoi diplomatique américain au Soudan a essayé lundi des tirs, mais personne n'a été blessé, a révélé mardi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'est entretenu séparément avec les 2 généraux rivaux luttant pour le pouvoir. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Je suis en mesure de confirmer qu'un convoi diplomatique américain a essuyé des tirs lundi au Soudan, a déclaré M. Blinken. Tous nos personnels sont sains et saufs, mais cet acte est irresponsable, a-t-il ajouté devant la presse à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 au Japon. Cet incident fait toujours l'objet d'une enquête afin de déterminer ce qu'il s'est passé exactement. Selon des informations initiales dont nous disposons, cela est le fait de forces associées avec les FSR, les unités paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, a-t-il précisé, en rappelant que le convoi avait des plaques d'immatriculation bien identifiées. Lundi soir, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, avait annoncé que l'ambassadeur de l'UE au Soudan avait été agressé chez lui. Dans leur communiqué commun à l'issue de leur réunion au Japon, les diplomates en chef des pays du G7 ont appelé mardi à l'arrêt immédiat des combats au Soudan, qu'ils ont condamné avec force. M. Blinken a aussi dit s'être pour sa part entretenu mardi séparément avec les 2 généraux rivaux et a insisté auprès d'eux sur l'urgence d'aboutir à un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu permettrait de fournir l'aide humanitaire aux personnes affectées par les combats, de réunir des familles soudanaises dispersées par les combats et d'assurer la sécurité des membres de la communauté internationale à Khartoum, a-t-il dit.
Les affrontements au Soudan depuis samedi entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de son ancien allié, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Metti, ont déjà fait près de 200 morts et au moins 1800 blessés selon l'ONU. La situation au Soudan reste confuse, particulièrement à Khartoum, la capitale, où les tirs et les explosions ont augmenté en intensité lundi. Pour avoir une meilleure idée de la situation sur place, Eric Manirakidza a contacté Mohamed El Hassan Osman Salah, un journaliste soudanais basé à Khartoum.
Pas du tout, c'est pas calme. Après le coucher de soleil, il y avait des bombardements aériens dans la zone du commandement général de l'armée soudanaise, le palais provincial et le centre-ville. Il y avait des drones qui bombardaient ces zones. C'est vrai, c'est loin de chez moi, mais on voit les drones, on voit les projectiles, les obus, et on entend le bruit d'explosion de ces obus qui sont assez gros. Parce que je suis à peu près 10 km de centre-ville, mais j'entends bien le bruit d'explosion.
Donc personne ne sort, tout le monde est terré chez soi.
Oui, c'est toujours ville morte. Pas de transport en commun, pas de véhicules dans la rue, à part les véhicules militaires de l'armée soudanaise, magasins et boutiques fermées, ville morte, littéralement.
Alors, 2 généraux s'affrontent. Est-ce que vous connaissez les revendications de l'un ou de l'autre?
Oui, l'armée soudanaise, commandée par le général Al-Burhan, prétend que les milices qu'elle appelle, ce sont des forces de soutien rapide, ont tenté d'attaquer ces centres militaires. Le général petit chef, le commandant des forces de secours rapide, il dit que l'armée a attaqué le camp de ses forces dans la zone de qu'on appelle le cité sportive de Khartoum. Et c'est la vérité. L'accrochage a commencé là-bas où des forces de l'armée soudanaise ont essayé de prendre le camp de forces de secours rapide dans le cité sportive.
Et actuellement, comment vous voyez la fin de ces combats? Est-ce que les combats peuvent cesser rapidement et la population, c'est elle qui...
La population souffre, on ne peut pas bouger, on ne peut pas sortir de chez lui. Les provisions des magasins commencent à s'épuiser. L'électricité est coupée 20 heures par jour. On n'a pas l'accès deux ou trois heures par jour. Il y a des gens qui se déplacent vers les régions de la Jazeera. La situation souffre fortement de cette guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide du général Emekti.
Notre confrère soudanais Mohamed El Hassan Osman Salah qui nous parlait de Khartoum. Cette situation au Soudan a suscité de nombreuses réactions à travers le monde, de Washington à Londres, en passant par le Caire et New York, John Linden.
Je condamne fermement le déclenchement des combats qui ont lieu au Soudan et appelle les dirigeants des forces armées du Soudan et des forces de soutien rapide à cesser immédiatement les hostilités, restaurer le calme et commencer un dialogue pour résoudre la crise, a déclaré depuis New York Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, s'est dit extrêmement déçu que l'armée et les paramilitaires n'aient que partiellement respecté les 3 heures de trêve qu'ils avaient dit accepter dimanche au lendemain du début des hostilités. L'Égypte, grand voisin influent du Soudan, a annoncé avoir discuté de la situation avec l'Arabie saoudite, le Soudan du Sud et Djibouti, 3 autres acteurs importants au Soudan, ainsi qu'avec Paris. Le Qatar, de son côté, s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui était censé se rendre au plus vite au Soudan, au-dessus duquel plus aucun avion ne vole. Réunis au Japon pour un sommet du G7, les chefs de la diplomatie américaine et britannique ont également appelé lundi à la cessation immédiate des violences au Soudan. Sur place à Khartoum et en pleine guerre médiatique, les belligérants ont continué de s'invectiver. Bourane bombarde les civils depuis les airs. Nous le poursuivons et l'amènerons en justice, a lancé le général Daglo en anglais sur Twitter. En face, l'armée a assuré sur Facebook se rapprocher tout près de l'heure de la victoire définitive.
Merci John. Jacques Aristide a pour sa part joint pour une analyse Roland Marshall, chercheur au Centre de Recherches Internationales de Sciences Po à Paris.
Le Soudan, depuis août 2019, connaît un processus politique très difficile où il s'agit de redonner le pouvoir aux civils et en même temps avec des militaires, disons les gens en armes qui essayent de garder l'essentiel des prérogatives. Donc cela aboutit à un coup d'État en octobre 2021. Et petit à petit, il y a eu une différence au sein des gens en armes, donc de l'armée officielle ou des paramilitaires. Les paramilitaires, le chef des paramilitaires se rendant compte qu'il avait en fait beaucoup plus intérêt à jouer le pouvoir civil et le retour à un ordre constitutionnel que le dirigeant de l'armée qui favorise quand même une stratégie à l'égyptienne, donc où les militaires sont l'essentiel, le pilier du régime actuel.
Pour des observateurs, ces combats sont une lutte existentielle pour les deux belligérants. Partagez-vous cet avis ?
C'est certainement une lutte existentielle pour les forces de soutien rapide des Métis. Ça n'est pas une lutte existentielle pour l'armée soudanaise qui existera de toute façon, quelle que soit l'issue de ce combat. Ce qui peut changer, c'est malgré tout l'identité du dirigeant de l'armée soudanaise, même si personnellement, je pense que le dirigeant des forces paramilitaires perdra cette confrontation parce qu'il n'a pas les appuis locaux et internationaux du général Burhan.
Comment mettre un terme à ce conflit meurtrier ?
Écoutez, il faut d'abord rappeler que ce conflit se passe dans des villes, pour l'essentiel, que donc la population civile est à la fois otage et victime de ces combats. Et donc il importe que les puissances qui puissent avoir une quelconque influence sur l'un ou les deux protagonistes s'activent pour arrêter les combats, obtenir un cessez-le-feu. Disons, il y a des choses qui se passent dans la région, notamment avec l'organisation régionale MIGAD, l'Union africaine qui a quand même fait d'énormes erreurs dans la médiation par le passé, veut aussi envoyer son dirigeant pour faire une médiation. Les Soudanais eux-mêmes, au-delà des différences d'opinion politique, s'y sont mis. Bon, les puissances occidentales plaident pour un cessez-le-feu. J'ai quand même un peu l'impression que pour l'instant, tout ça reste quand même du langage. Ce n'est pas une critique, mais que les gens sur le terrain, les combattants des deux côtés, pensent chacun que justement, il n'y a pas d'autre solution que le combat et que donc les affrontements vont encore durer plusieurs jours, peut-être une semaine, avant de trouver une issue politique ou militaire.
Roland Marshall, chercheur au Centre de recherche internationale de Sciences Po, joint à Paris.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, les autorités tunisiennes ont arrêté hier le chef du mouvement islamo-conservateur Ennahda, Rached Ghannouchi, un des principaux opposants au président Kais Saïd, accusé de dérive autoritaire, a indiqué sa formation. Son arrestation survient après des déclarations rapportées par des médias dans lesquelles M. Ghannouchi a affirmé ce week-end que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si l'islam politique dont était issu son parti y était éliminé. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont promis mardi que les pays qui fourniraient une assistance à la Russie pour sa guerre en Ukraine en paieraient le prix fort. Les ministres ont par ailleurs exprimé leur opposition aux activités de militarisation de Pékin en mer de Chine méridionale, estimant qu'il n'y a pas de base juridique aux revendications maritimes étendues de Pékin dans cette zone et ont souligné leur position inchangée sur Taïwan. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Athlétisme pour commencer avec le marathon de Boston, remporté hier par Evans Chebet.
Oui, le coureur kényan s'est imposé devant son compatriote, roi incontesté de l'épreuve Eliud Kipchoge, en 2h05'54. Kipchoge n'a terminé que 6e dans le Massachusetts, très loin derrière Chebet, déjà vainqueur en 2022, également lauréat du prestigieux marathon de New York l'année dernière. Evans Chebet, 34 ans, réalise ainsi le premier doublé depuis 2008. Chez les dames, Hélène Obiri réussit son passage sur longue distance. La Kenyane, spécialiste du demi-fond, championne du monde du 5000 mètres à Londres en 2017 et Doha en 2019, s'est imposée en 2h21'38. Elle améliore son record personnel de plus de 3 minutes. Obiri a devancé la favorite éthiopienne Aman Berezo de 12 secondes et l'israélienne d'origine kenyane Lona Salpeter de 19 secondes.
Football, les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions se jouent ce soir en Europe.
L'Italie détient la palme du suspense avant le choc entre Naples et l'AC Milan. Les Milanais ont l'avantage acquis à l'aller 1-0, mais il faudra résister au vent contraire. Un stade Diego Maradona bouillant, rempli par près de 55 000 spectateurs, et ragaillardi par le retour de blessure de l'attaquant vedette Victor Osimhen. Les tifosi du Napoli misent en grande partie sur le Nigérian, grand absent la semaine dernière à cause d'une gêne musculaire. Moins de suspense dans l'autre quart de finale retour de ce soir. Chelsea et le Real Madrid, sacrés en 2021 et 2022 respectivement, s'affrontent à Stamford Bridge. Les Espagnols débarquent avec l'élan du match aller 2-0 face aux Blues d'Edouard Mendy et Hakim Ziyech.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, fin le week-end dernier à Libreville, des assises nationales contre la vie chère. Le pays est à la recherche de solutions pour améliorer les conditions de vie des populations. Les participants à ces assises nationales ont recommandé aux autorités de relaxer, de surtaxer les produits de luxe comme les cigarettes et le champagne, de mettre fin à la parafiscalité et de détaxer les produits alimentaires importés. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
C'est la dernière ligne droite pour les ménages musulmans. En allant faire leurs courses pour la fin du Ramadan, Aïcha et Maïmouna ont presque envie de tout abandonner devant la cherté des prix des denrées alimentaires dans l'un des marchés de Libreville.
Le prix d'huile a augmenté, le prix du sucre a augmenté, même les pommes de terre qu'on achetait à 90 000, tout ça là, les pommes de terre sont maintenant à raison de 135 000.
On s'organise comme ça là, avec les prix qui sont élevés. On paye quand même, on se débrouille. Et...
Se débrouiller ou se serrer la ceinture, c'est le quotidien des familles à faible revenu. Selon les commerçants, l'inflation est en partie liée aux tracasseries policières, douanières et autres sur le circuit des importations. Suzanne Dikandou est présidente du syndicat des commerçants de Libreville.
Vous arrivez là au contrôle phytosanitaire, il a son tarif. Chez le gendarme, il a son tarif. Vous arrivez là où il y a la limite de policiers, ils ont leur tarif. La douane, surtout la douane, c'est pourquoi j'ai demandé la réduction de tout produit alimentaire terrestre à 50%.
Selon les données statistiques du ministère de la Consommation, 80% des dépenses des ménages sont absorbées par l'alimentation, le logement, la santé, l'éducation ou encore le transport, pour ne citer que ces secteurs. D'après Jean-Robert Meignet du syndicat des transporteurs, il faut vite agir pour inverser la courbe.
C'est un environnement professionnel désuet. Par exemple, dans le cas du transport terrestre, l'état de délabrement avancé des routes. Et nous avons donc proposé des solutions qui se résument en gros à baisser de 50% les charges sur les activités, à exonérer les activités qui sont en lien direct avec les produits de première nécessité et avec les produits essentiels des populations.
En réponse aux recommandations des assises nationales contre la vie chère, le chef du gouvernement s'engage à satisfaire l'ensemble des propositions sur le court, moyen et long terme. Alain-Claude Mbézé, Premier ministre gabonais.
Il y a parmi les propositions qui sont faites, certaines qui peuvent être appliquées dans l'immédiat, il y en a qu'il faudra étaler et on ne pourra pas malheureusement tout appliquer du jour au lendemain. Parce que certaines propositions vont nécessiter des analyses, vont nécessiter un certain nombre d'inscriptions budgétaires ou alors de renoncer à un certain nombre de taxes.
Comme il fallait s'y attendre, une commission technique sera chargée du suivi et évaluation des différentes recommandations avant leur mise en application. Libreville, Ismaël Obinze pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Burkina Faso, depuis plusieurs jours, des citoyens dénoncent la cherté des prix des communications, notamment la connexion Internet. Ils menacent de boycotter les services des différents opérateurs de téléphonie. De son côté, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes reconnaît que les opérateurs ont une liberté de fixation des tarifs conformément à la loi sur la concurrence. L'autorité demande aux Burkinabés la retenue et la poursuite des discussions. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le mouvement de contestation est parti de la Côte d'Ivoire. Puis des internautes, des citoyens burkinabés, eux aussi ont estimé que le prix de la connexion est élevé. Mamadi Ouedraogo est un citoyen et internaute qui milite pour la baisse des prix des data.
Au départ, certaines personnes avaient lancé une dynamique pour qu'on puisse avoir une réduction des coûts. La dynamique n'a pas suffisamment pris. Et avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça a un peu réveillé le dossier et le mettre au goût du jour. Donc du coup, il y a une adhésion qui est là. De façon générale, le coût de la vie est très élevé au Burkina Faso depuis ces derniers moments. Donc il y a beaucoup de jeunes qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui travaillent beaucoup sur Internet, qui utilisent Internet pour s'exprimer et faire marcher à leur manière l'économie ou le pays de façon générale. Donc si aujourd'hui les citoyens estiment que le coût est élevé, il appartient à tous les acteurs de façon concertée et de rassurer la population quant à ce qui doit être fait pour que tout le monde soit épanoui là où il est.
Les organisations de défense des droits des consommateurs trouvent aussi que les services sont chers et défaillants. Adama Bayala, président du RENCOF, les réseaux nationaux des consommateurs du Faso.
Tenez-vous bien qu'au Burkina Faso, la minute d'appel coûte 90 francs CFA. Et pour ce qui est des data, des mégas, vous en avez le giga pour plus de 2100 francs, 2500 francs. Alors que dans des pays voisins, je prends le cas du Niger qui est un pays sahélien, vous avez un giga à un peu plus de 1000 francs CFA. Au Ghana, un pays côtier, vous avez un giga à moins de 400 francs CFA. On ne peut pas comprendre pourquoi ce soit aussi cher au Burkina Faso. Et pour ce qui est de la qualité aussi, qualité médiocre exécrable avec des droits de consommateurs violés impunément dans l'indifférence.
Il y a deux types de tarifs, ceux fixés par l'autorité de régulation elle-même et les tarifs de détail appliqués aux consommateurs finaux. Salamata Rwamba Ili, directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, explique à la télévision nationale.
Pour ces tarifs, c'est la liberté de fixation en fait des tarifs, conformément à la loi sur la concurrence. Donc les opérateurs fixent les tarifs de manière libre. Cependant, il y a un petit encadrement qui veut que ces tarifs-là soient transparents vis-à-vis du consommateur, donc que l'opérateur donne le maximum d'informations concernant les offres commerciales qui sont appliquées aux opérateurs.
Les responsables de l'autorité de régulation ont annoncé la semaine dernière que des concertations avec les opérateurs de téléphonie mobile se poursuivent. Ils demandent aux Burkinabés de leur faire confiance pour donner une chance aux concertations en cours. Des citoyens et internautes ont décidé de boycotter les services des opérateurs ce mardi. De 11h à midi, les téléphones seront mis sur mode avion pendant une heure. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Retour sur le Soudan. L'une des causes de la crise actuelle, c'est l'antagonisme entre deux généraux. Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, et Mohamed Hamdan Daglo dit Hemeti, qui dirige le groupe paramilitaire FSR, Force de soutien rapide, qui regroupe d'anciens miliciens de la guerre au Darfour. Portrait des deux belligérants avec Jacques Aristide.
Natif de Gandatou, un village au nord de Khartoum, Abdel Fattah al-Burhan, à 62 ans, incarne le visage du pouvoir militaire au Soudan. Ce père de trois enfants est devenu le dirigeant incontesté du pays depuis son putsch d'octobre 2021. L'ancien commandant de l'armée de terre de l'ex-président Omar el-Béchir est passé par les académies militaires soudanaises, égyptiennes et jordaniennes. Moustache poivre et sel et longue silhouette élancée, le général Burhan a troqué après le coup d'État son éternel uniforme kaki, son béret et ses galons bien en vue pour une tenue civile. Aujourd'hui, ses plus fervents adversaires, les derniers bastions de manifestants qui continuent de braver une répression meurtrière pour réclamer un pouvoir civil, l'accusent d'être un cheval de Troie des islamistes et des caciques de l'époque Béchir. Il pensait avoir négocié pour longtemps la loyauté de son second, le général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemeti, patron des forces de soutien rapide. Hemeti est lui venu des milices qui ont semé la terreur au Darfour et s'est imposé comme un acteur incontournable de la politique et de l'économie au Soudan. Né en 1975 dans une tribu arabe à la frontière entre Tchad et Soudan, Daglo n'a pas poursuivi d'études, mais depuis 2019, l'homme à la longue silhouette a travaillé sa façon de s'exprimer en arabe. L'ancien nomade qui commerçait du bétail se pose désormais en paragon de l'état civil et en adversaire farouche de l'islam politique. Et dans la rue aujourd'hui, ce sont les hommes de Daglo qui depuis samedi tentent de ravir le pouvoir à l'armée. Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, gros plan sur les combats meurtriers au Soudan entre l'armée et les paramilitaires. Des puissantes forces de soutien rapide, la population prise au piège de ces affrontements paie un lourd tribut. De nombreux civils ont déjà péri dans cette guerre ouverte entre Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays, et son numéro 2, Mohamed Hamdan Daglo, deux généraux à l'origine du coup d'état d'octobre 2021 et qui se disputent désormais le pouvoir. La communauté internationale a appelé à l'arrêt immédiat des hostilités. Comment en est-on arrivé là et comment ramener la paix? Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
À partir de ce mardi, VOA Afrique commencera à diffuser une nouvelle émission hebdomadaire intitulée « Focus Sahel ». Chaque semaine, cette émission abordera les questions jugées urgentes auxquelles la région du Sahel fait face actuellement, tout comme les défis et les opportunités qui caractérisent cette région. Timothée Donangma, chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, répond aux questions de Mohamedou Humfa.
Alors Timothée, pourquoi une émission spécifique sur le Sahel et quelles sont les principales thématiques qui y seront abordées?
Alors Mohamedou, le Sahel, ce sont quelques 135 millions d'âmes éparpillées sur 7 millions de kilomètres carrés, des frontières poreuses, des zones arides, parfois d'accès difficile. C'est une région bien entendu confrontée à des crises climatiques, sécheresses, inondations, des attaques de groupes extrémistes, des bandes armées, des situations parfois attisées par des acteurs extérieurs. On a noté ces derniers temps que cette instabilité dans le Sahel est en train de descendre vers la côte atlantique et déjà des pays comme le Togo et le Bénin sont menacés. C'est donc dans ce contexte que la Voix de l'Amérique à travers Focus Sahel se propose de se pencher sur le quotidien des communautés sahéliennes et la manière dont elles s'organisent pour faire face à tous ces défis.
Alors Timothée, il faut dire que beaucoup de clichés circulent sur le Sahel, y compris dans les médias. Comment espérez-vous que cette émission contribuera à une meilleure compréhension de cette région?
Alors Mohamedou, grâce à nos correspondants sur le terrain, nous donnerons la parole aux communautés, comme je l'ai dit, pour qu'elles expliquent la complexité de la situation qu'elles vivent. Je pense par exemple à certaines communautés qui se retrouvent aujourd'hui entre le marteau et l'enclume parce que certains membres de ces communautés ont rejoint des groupes armés. Eh bien, nous donnerons l'opportunité à ces communautés-là d'expliquer ce qui se passe. En plus de nos correspondants, nous ferons aussi appel à nos stations partenaires dans les différents pays du Sahel pour des témoignages de première main, une façon pour nous de vérifier certains faits en ces temps où la désinformation sévit sur les réseaux sociaux.
Alors, plusieurs émissions sont diffusées ici même sur les antennes de VOA Afrique. Il y a donc cette nouvelle émission Focus Sahel. Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans la mission plus large de VOA Afrique?
La mission de VOA Afrique, c'est d'accompagner l'Afrique dans sa quête de stabilité, de développement et de mieux-être. Et nous comptons le faire en partageant les expériences des différentes communautés et pour que qu'elles puissent s'inspirer les unes des autres.
Voilà. Merci beaucoup, Timothée. On se donne rendez-vous sur VOA Afrique pour écouter Focus Sahel, la nouvelle émission consacrée à cette région du Sahel. Une émission qui sera présentée par Eric Manirakiza.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnou, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.